On a quelques questions qui peuvent être surprenantes.
Comment les fils font pour supporter le poids de l'eau?
Que se passe-t-il si un avion percute un pylône?
S'il y a une panne d'électricité, est-ce que la centrale perd l'électricité?
Alors bonjour et bienvenue à cet autre épisode de Votre tweet est important pour nous, la série balado où on aborde les sujets qui vous font réagir dans les médias sociaux et autour de cette table, il y a les gens qui vous répondent. Jonathan Côté.
Salut, salut.
Gabriel Leblanc.
Allô.
Et Pierre-Alexandre Buisson.
Cher Francis.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle de visite d'installation. Il y a beaucoup de gens qui visitent les installations d'Hydro-Québec, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et justement, on a plein de questions à poser et avec nous, on a des gens qui vous accueillent dans nos installations et qui vous font faire le tour du propriétaire. D'abord, nous avons Kenza Ousrir. Bonjour. Et Danica Corbeil-Owens.
Salut.
Vous êtes guide à Hydro-Québec, vous êtes des étudiantes. Kenza, dans quel domaine d'études est-ce que vous êtes?
Donc, moi, j'ai fait mon bac en microbiologie et en immunologie.
Microbiologie.
Oui, exactement. Et donc là, je viens de graduer en cet automne qui est passé. Et là, en ce moment, Merci beaucoup. Oui, et là, bravo. Je suis en enseignement collégial.
D'accord.
Donc, c'est ça. C'est un beau switch de
oui,
domaine.
Tout à fait. Danica, de votre côté?
Moi, en ce moment, je fais mon bac, donc une double majeure en sciences politiques et en histoire. Il me reste encore un an avant que je gradue, mais j'adore ça jusqu'à date.
Danica, première question pour vous.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené à devenir guide à Hydro-Québec?
C'était en fait un accident.
Et voilà qui commence bien.
Ben fait des tonneaux, puis bam, elle s'est retrouvée chez Hydro-Québec.
C'est à peu près ça. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui entendent parler du poste de guide à travers des connaissances qui travaillent déjà à Hydro-Québec. C'est tellement une expérience qui est cool pour les étudiants. Moi, en fait, c'était une publicité dans une revue locale des Îles-de-la-Madeleine que mon père m'a envoyée.
Wow.
Oui, pour des guides aux Îles-de-la-Madeleine pour Hydro-Québec. J'étais intéressée, mais ça me tentait de trouver quelque chose un peu plus proche de la maison que les îles. Donc, j'ai été sur le site, j'ai vu, guide à Montréal, ça a l'air intéressant. Je me suis inscrite. Et puis voilà, maintenant, ça fait un an et demi que je travaille à Hydro.
Wow! toute une histoire.
C'est
de votre côté, Kenza?
Ben moi, c'est un peu plus, ordinaire, on va dire, dans le sens où j'étais sur Indeed. Puis je cherchais justement des emplois qui aidaient en fait à la... En fait, comment dire? Parce que j'étais étudiante, donc je savais... Il faut quelque chose qui m'aide dans mes études, en fait. Et j'ai trouvé l'emploi chez Hydro, puis ça alignait parfaitement avec ce que j'aimais, justement, parler, guider, animer. Puis donc, j'ai appliqué, puis ça a donné. Donc, c'est le fun.
Le concept de cette balado, c'est que les gens autour de la table vous posent une série de questions. Jonathan, une première?
Oui, bien là, ça va être un peu différent aujourd'hui parce que, dans le fond, d'habitude, on fait que des questions qui viennent des médias sociaux. Mais là, on fonctionne un peu à l'envers parce que les guides, l'équipe de guides reçoivent aussi des questions qui sont envoyées par le public, par courriel notamment. Et là, on est allé un peu à l'envers. On va vous présenter des questions que vous pouvez recevoir ou des questions que vous pouvez recevoir lors des visites. Donc, c'est plus votre visiteur est important pour nous aujourd'hui, quelque chose comme ça. Mais on a quand même, en guise d'introduction, des commentaires qui viennent des médias sociaux. Fait que je commence par le beau commentaire. Donc, Jacinthe qui dit « Je confirme, ce sont vraiment de très belles visites. Gratuites en plus, instructifs. Les guides ont beaucoup de connaissances. » Vous avez beaucoup de connaissances.
Mais c'est vrai, c'est intimidant. Moi, je me rappelle la première fois, le premier mois où je suis arrivée à Hydro-Québec, on avait été visiter de mémoire Beauharnois avec mon directeur. Puis la guide nous faisait une présentation sur l'hydroélectricité. Puis j'étais comme, voyons, pourquoi ils n'ont pas embauché elle? Elle est meilleure, elle sait tout. Ça n'a pas d'allure.
Bien, en fait, quand on est embauché, on passe à travers une semaine de formation assez intensive. En fait, il y a des gens qui ont qualifié ça comme un cours universitaire en une semaine. Donc, on arrive autour de 8h30 le matin. On part autour de 4h30, donc 16h30 l'après-midi, pendant une semaine, où on essaie d'apprendre vraiment toute la base qu'on pourrait possiblement avoir besoin. Et ensuite, les gens, dans leurs installations spécifiques, vont en apprendre de plus pour la semaine d'après. Donc, une autre semaine intensive.
Un autre cours universitaire.
Exact. Un autre cours universitaire.
Dans le fond, les filles, vous êtes rendues à 4 bacs.
Pratiquement, oui, je dirais que oui.
Exactement.
Mais
c'est intéressant. Oh, excuse-moi,
vas-y. Non, c'est juste pour ajouter une petite chose aussi. On a aussi des compétences qu'on veut développer pendant qu'on travaille ici qui sont vraiment importantes on connaît beaucoup de choses, mais on apprend tout le temps et c'est un milieu qui est tellement ouvert à l'apprentissage. Donc, on peut faire des erreurs, on peut se tromper sur des choses, mais on a tellement de ressources et on apprend aussi à aller vers ces ressources-là. Donc, il y a plein de personnes ressources dans la compagnie. Et donc, si on ne connaît pas une question, bien, on va savoir comment aller chercher justement ces personnes ressources-là, trouver ces réponses-là. Donc, c'est vraiment le fun dans la vie de tous les jours de savoir justement faire ça.
Ces connaissances-là, en fait, sont tellement importantes. Il y a plein de gens avec qui on travaille qui sont montés là, dans l'entreprise, qui sont là depuis, qui sont étudiants, en fait. Je pense notamment à Claudine Bouchard.
Claudine Bouchard, vice-présidente.
Qui est vice-présidente, qui a commencé comme guide. Donc, peut-être que vous allez être présidente de l'entreprise dans pas long.
La prochaine
cohorte.
Faire carrière à Hydro-Québec, tout à fait.
Règle générale, les visiteurs et visitrices apprécient toujours votre travail. Il y a des gens sur les internets qui semblent l'apprécier moins. On avait fait un reel avec des guides qu'on avait mis sur Instagram il y a un certain temps. Puis il y a un Zachary qui avait commenté « Je me demande, ils ont été payés combien pour faire ça? » Et là, premièrement, on n'oublie jamais personne à participer à des projets où ils n'ont pas envie de participer. Donc, c'était fait sur une base bénévole. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous fassiez face à des situations désagréables en personne dans l'exercice de vos fonctions?
En gros, des situations désagréables, on en rencontre dans tous les domaines. Ici, en particulier, je dirais, c'est pas une question de personnes désagréables en tant que telles, c'est plus des situations où on est juste pas capable de faire plus. Ici, on s'entend, c'est un bâtiment de Hydro-Québec, donc les gens font le lien entre service à la clientèle et siège social. Donc, on reçoit des gens qui nous demandent des questions où on n'a juste pas les informations. Mmh. Et le fait de dire non, des fois, c'est un peu... c'est sensible un peu, donc ça amène justement des situations peu poussées.
Donc, quelqu'un arriverait avec sa facture, mettons, pour
exactement.
Se faire expliquer.
Exactement. Donc, c'est ça, dire non et dire juste expliquer que c'est par téléphone alors que la personne a déjà essayé, c'est comme... Un peu compliqué dans ce
sport-là. Pour acheter une précision là-dessus, en fait, ça ajoute quand même une bonne couche de sécurité qu'on n'ait pas accès à tous les dossiers clients.
Exactement, mais oui, c'est ça.
Au siège social.
On comprend d'où ça vient, c'est juste le lien direct avec le client, c'est qu'on le voit, puis c'est comme, il y a un petit moment inconfortable des fois de dire non, de ne pas pouvoir faire plus, puis c'est ça.
C'est ça, puis des fois, tu sais, on va recevoir les extrêmes. Si quelqu'un prend la peine de nous écrire ou de venir, souvent, c'est... pas le client moyen ou la personne moyenne, c'est quelqu'un qui a un gros problème ou qui a vraiment quelque chose de sérieux qui se passe. Donc, on est confronté quand même à des réalités, des fois, qui sont pas mal sérieuses. Puis, des fois, ça déstabilise un peu de devoir, en tant qu'étudiante, où t'as pas nécessairement les ressources, t'as pas nécessairement les connaissances dans ce domaine-là, et de dire, OK, je dois trouver une façon d'aider cette personne, sachant que moi, je suis pas une agente du service à la clientèle, donc je peux seulement faire autant. Mais c'est, oui, je dirais que la majorité des situations, encore une fois, c'est pas des gens qui, tu sais, nous donnent des commentaires un peu dans ce style-là, on boit du champagne, mais c'est des gens qui ont des vrais problèmes. Puis de pas nécessairement toujours avoir les ressources pour. On a les ressources à Hydro pour pouvoir aider, mais nous, en tant que personne, des fois...
Si c'est pas ton rôle de faire ça, bien évidemment... Ouais.
Exactement. Donc ça, je dirais que c'est la partie qui était la plus challenging, en quelque sorte.
Juste ajouter un petit point aussi. Ici, au siège social, on n'a pas autant de visites. On n'a pas beaucoup de visites ici parce que c'est un milieu qui est quand même imposant, puis les gens ne pensent pas directement au fait qu'il y a des visites ici. Mm-hmm. Donc, on n'en a pas tant. Puis les gens qui viennent ici, c'est vraiment des gens qui ont fait des recherches, qui sont vraiment intéressés par l'histoire de l'électricité, des gens qui ont étudié en électricité, des passionnés. Donc, on a presque pas de problème, en fait, avec les visiteurs qui viennent ici. C'est même des fois
C'est incroyable.
On apprend plus des fois des visiteurs qu'ils apprennent.
Un peu, guys, on va mettre l'épisode sur pause. On va juste aller faire la visite. Puis on
va revenir après.
Intéressant parce que vous recevez des gens, évidemment, en personne. Vous recevez aussi des commentaires par courriel. Même nous, parfois, on reçoit des messages privés de gens qu'on vous transfère parce qu'on sait que vous avez plus de réponses que nous. Jonathan le dit d'entrée de jeu, on a quelques questions qui nous ont été transmises, notamment par votre chef. Donc, des questions qui peuvent être surprenantes.
Quelqu'un dit « Comment les fils font pour supporter le poids de l'eau? »
Donc, quelqu'un qui pense que l'eau passe directement dans nos fils.
Ah, ben oui, c'est comme ça que l'hydroélectricité
fonctionne, bien sûr. Voilà, Hydro-Québec.
Oui. Ah, et ça aussi, je pense qu'on doit répondre avec un ton très sérieux, très, tu sais, réel et expliquer à la personne du mieux qu'on peut comment ça fonctionne. Exact.
Ouais, je pense que dans ce cas-là, c'est vraiment expliquer comment l'hydroélectricité fonctionne, comment les barrages, tout fonctionne pour justement expliquer qu'il n'y a pas d'eau dans les fils.
C'est rassurant quand même. Pour le futur, vous pourrez référer une personne qui pose cette question à notre épisode Électricité 101 avec Jonathan Drouin, qui lui explique en entier comment fonctionne l'électricité.
Parce que depuis le tournage de cet épisode-là, maintenant, on sait comment est conçue l'hydroélectricité.
Super. Ce serait quand même difficile, des fils pleins d'eau en hiver. En tout cas, moi, je lance ça comme ça.
Non, il y a des défis techniques, je pense.
Quelques-uns.
Le fil gèlerait.
Mais moi, j'ai une question qui a un petit peu plus de base dans la réalité quand même que vous avez reçue. Que se passe-t-il si un avion percute un pylône?
Oh, bon.
C'est plate pour l'avion. Tu
sais. Ben oui, c'est plate pour l'avion et c'est plate pour le pylône aussi.
C'est plate pour le pylône.
Puis c'est pas mal bas pour un avion qui vole quand même.
C'est un bon point.
Je dirais peut-être que ce serait plus probable pour un drone, mais pour un avion.
Ouais, on n'a jamais, à ce que je sache, eu un problème où un avion a percuté un pylône.
En Mauricie,
ah.
Il y a quelques années, c'était pas le pylône qui avait frappé, mais c'était la ligne.
OK. Okay,
ouais. C'était pas un hydravion, justement, donc il était proche d'un cours d'eau, tout ça.
Ben dans ce genre de cas-là, on contacterait probablement des personnes en ressources avec le milieu qui auraient plus d'idées, en fait, de situations qui se sont passées. C'est admettons, on aurait trouvé ce genre de cas-là, puis on aurait demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait.
Mais depuis le verglas de 1998, on a modifié un petit peu nos lignes de transport. Donc, il y a maintenant des pylônes qui peuvent résister à une chaîne, une cascade, donc un effet domino. Peut-être que...
C'était un avion, c'est peut-être pas la même histoire.
Évidemment. Donc, en fait, tout ne s'écroulerait pas s'il y avait un impact.
Moi, j'ai une autre question. Une centrale et un barrage, n'est-ce pas la même chose?
Non, non, pas du tout. Deux utilités très différentes. Un barrage, ça va retenir l'eau. Et une centrale, mais ça va produire de l'électricité. Donc, en fait, pas toutes les centrales vont avoir des barrages. On a des barrages ou des centrales au fil de l'eau. Donc, ceux-là vont pas nécessairement avoir un barrage. Et sinon, on a des centrales à réservoir. Ceux-là vont avoir des barrages pour être capables de stocker de l'eau et la turbiner en temps et lieu.
Il y a beaucoup de barrages aussi, je pense, au Québec, qui sont juste des ouvrages de retenue, dont certains appartiennent même pas à Hydro-Québec. Mm-hmm. Donc,
la plupart appartiennent pas à Hydro-Québec.
Exact. En fait.
C'est ça, c'est vraiment la gestion des cours d'eau. Donc oui, en fait, il y a beaucoup plus de barrages que de centrales au Québec.
Il y a aussi, c'est aussi une question de gestion, en fait, d'avoir une certaine flexibilité. C'est sûr qu'avec des réservoirs, on peut gérer notre flexibilité d'électricité, pouvoir l'utiliser où est-ce qu'on en a besoin, parce qu'on peut pas juste stocker l'électricité pour pouvoir l'utiliser n'importe quand. Donc avec des réservoirs, ben ça nous aide quand on a une plus grosse demande. Une moins grosse
demande. C'est ça. Si je me souviens correctement, le stockage de potentiel d'électricité dans nos réservoirs, c'est environ 176 térawatts d'énergie potentielle ou d'électricité potentielle.
En térawattheure, je pense. En térawattheure, oui, c'est ça. Ouais.
Donc, quand même, c'est comme des batteries géantes, en quelque sorte. Et ça nous permet, en fait, d'être capable d'avoir cette flexibilité-là, comme Kedza disait, de turbiner quand on a vraiment besoin d'en produire.
Ça, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup entendu, à tort, dans l'actualité dernièrement, Hydro-Québec va construire de nouveaux barrages. Mais ça sert un peu à rien. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est Hydro-Québec va construire de nouvelles centrales.
Oui.
Ou peut-être les deux. On verra
peut-être
dépendamment.
Les deux, exactement,
projets,
selon les besoins. Grande question importante et pratiquement philosophique. S'il y a une panne d'électricité, est-ce que la centrale perd l'électricité?
C'est une très bonne question. Donc, en gros, la centrale, c'est ce qui, justement, produit... l'infrastructure qui permet de produire l'électricité. S'il y a une panne d'électricité, c'est un problème sur le réseau de distribution et non pas dans la production. Donc, s'il y a un problème dans le transport, je ne pense pas qu'il y a un problème dans le...
Exact. Puis ça dépend aussi. Tu sais, on a des pannes sur notre réseau de distribution, on aura des pannes sur notre réseau de transport, mais c'est du cas par cas de où la panne se produit. Dans la majorité des cas, la centrale, c'est elle, encore une fois, qui produit l'électricité. Donc, une panne qui se fait, mais comme plus loin dans le processus de transport d'électricité, ça ne va pas nécessairement affecter la centrale.
Donc, pour ceux qui se posent la question, ceux qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre le réseau de distribution et le réseau de transport?
Oui, donc le réseau de transport, c'est vraiment le réseau où on va prendre l'électricité qui est générée dans les centrales et on va l'amener sur des longues distances pour justement arriver au réseau de distribution pour le distribuer au commerce ou aux résidences. Donc, la distinction qu'on peut faire visuellement, bien, c'est des gros pylônes qui vont avoir des très grosses charges, qui vont avoir vraiment transporté des grosses charges comme 735 000 volts, admettons. Et après, bien, ça va passer par des postes où ça va s'atténuer de plus en plus et aller dans le réseau de distribution.
Voilà. Donc, c'est ça. Donc, réseau de transport, ça va les lignes haute tension. Ensuite, un poste de transformation pour baisser la tension pour être capable d'aller dans nos réseaux de distribution, donc les poteaux de bois qu'on voit dans nos rues. Ça serait le réseau de distribution. C'est ça.
Petite question pour vous. Vous êtes au siège social, mais on peut aussi visiter plusieurs installations un peu partout au Québec. Combien on peut en visiter au juste?
Donc, en ce moment, on peut visiter 16 installations ici au Québec. Donc, chaque installation a ses guides, ses propres guides qui font les visites. Donc, ici, pour faire le lien avec, justement, notre travail ici, bien, on est des guides au siège social, mais si on a des questions en lien avec, justement, des installations autres, bien, on va aller contacter les guides qui sont présents sur le site pour qu'ils nous donnent les informations dont on a besoin.
Puis, on a combien d'installations au total dans la province?
62.
Mais ouais, si aussi, on a des installations qui sont majoritairement visitées pendant l'été. Donc, la majorité des centrales, en fait, ça va être seulement des visites vraiment d'été. Parce que, encore une fois, c'est un travail étudiant. Donc, beaucoup vont appliquer pour le travail, travailler pendant l'été en centrale. On a des gens qui, en fait, vont vivre proche de la baie James pour faire pendant tout l'été pour faire les visites. Mais on en a aussi qui sont ouvertes à l'année longue. Donc, le siège social, c'est une installation ou un endroit que vous pouvez visiter. L'électrium, c'en est un autre. C'est un endroit qui fait beaucoup de vulgarisation scientifique. Donc, c'est super pour les groupes scolaires, pour les groupes avec des enfants en plus jeune âge. Vraiment, on vous recommande ça. Sinon aussi, si je ne me trompe pas, la centrale Beauharnois fait des visites pour des groupes scolaires à l'année longue. Donc, il y a quand même beaucoup d'options.
Donc,
même
sous réservation, on peut
exact.
Aller...
C'est impressionnant, la centrale de Beauharnois, pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Je pense que c'est bien de préciser aussi que les visites peuvent être facilement adaptées, hein, peu importe la condition physique des gens. C'est facile de se déplacer en centrale. Les guides sont vraiment là pour adapter la visite. Puis même maintenant, on a des visites qui sont adaptées pour les gens qui sont neurodivergents. Donc, c'est super intéressant parce que tout le monde vraiment peut trouver son compte là-dedans.
C'est ça. Puis on fait du cas par cas aussi dans le sens qu'au siège social, on va donner des visites qui sont différentes dépendant du groupe d'âge, dépendant de l'intérêt. Évidemment, on a des informations qu'on veut toujours couvrir quand on fait notre visite. Mais si quelqu'un, par exemple, est vraiment passionné par un sujet en particulier, bien, on va essayer d'en parler un peu plus longtemps, surtout qu'ici, on reçoit des plus petits groupes. En centrale, ça va être un peu différent parce que tu gères beaucoup plus de visiteurs par année. Mais ici, ça, vraiment, un côté positif, c'est que souvent, on va avoir des groupes de 1, 2, 3 personnes. Et on pourra parler des sujets qui intéressent la personne. Donc, des fois, ça va devenir plus une conversation. Tu sais, on avait un jeune qui était vraiment intéressé par tout ce qui était voiture électrique, tout ce qui était électrification des transports. Donc, on pouvait parler un peu plus de la filiale circuit électrique ou des batteries qu'on développe à notre centre de recherche. Sinon, il y avait quelqu'un qui était vraiment intéressé par la murale qu'on a au siège social,
oui,
la murale de Mousseau.
C'était assurément le fils de Jonathan.
Mais ouais, on en a parlé un peu plus parce qu'on avait des questions sur ce sujet-là et on est capable de faire ces changements-là à notre visite ou d'adapter plus au client, à la personne qui visite.
On est donc bien flexible.
Ah ben oui.
Mais là, il y a une question aussi que vous avez reçue, quand même assez étonnante, mais je me dois de vous la poser. Pourquoi le QG d'Hydro-Québec, donc le siège social, n'est pas dans le centre-ville de Montréal?
Question très intéressante. Donc, c'est d'ailleurs, ça fait partie d'ailleurs de du contenu de notre visite ici. Donc, c'est vraiment une raison qui est historique. Donc, en gros, il y a deux raisons pour lesquelles le siège social se trouve ici. Donc, tout d'abord...
Mais là, tu as un peu lui dit pourquoi il n'est pas dans le centre-ville de Montréal. Donc,
Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est parce qu'ici, quand le siège social a été construit, c'était dans le but de partir un centre-ville culturel et en fait francophone pour justement être en contraste avec le centre-ville économique et anglophone. Et donc, en construisant justement le siège social ici, ça voulait être le début de ce projet-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des bâtiments comme Radio-Canada, l'UQAM dans les alentours. Et donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'ils ne se trouvent pas dans le centre-ville.
C'est devenu un peu le centre-ville ici.
À
l'époque, ça ne l'était pas tant.
Par exemple, dans le downtown, comme on l'appelle. Donc.
C'était un projet qui avait été commencé par le maire Jean Drapeau à l'époque, qui voulait construire ce centre-ville-là francophone en compétition avec le centre-ville anglophone. Donc, il y avait aussi, dans ce quartier-ci, avant, c'était connu un peu plus comme le red light. Mm-hmm. Donc, une autre raison, c'était, on aimerait peut-être améliorer le quartier ici ou,
Nettoyer.
C'était le terme qui avait été utilisé. Mais donc il y avait quelques buts pour le construire ici et non pas dans le centre-ville traditionnel économique anglophone qui était présent à l'époque.
Donc c'est un centre-ville à côté du downtown.
Et on a une œuvre d'un signataire du refus global dans le siège social, donc tout est dans tout.
Mais il n'y avait pas aussi comme objectif, je pense, au moment de la construction du siège social, d'éventuellement servir de studio à ce balado?
Probablement.
Indéniablement.
Bon, vu qu'on dérape un petit peu dans toutes les directions, j'ai une dernière question pour vous. Avez-vous déjà touché à l'anguille électrique de l'électrium?
Personnellement, non. Je suis très triste que je n'ai jamais pu avoir cet honneur-là de toucher à l'anguille électrique. Mais on l'a vu.
C'était très intéressant.
Et comme il est question d'anguilles, Gabriel, on a un quiz à soumettre à nos invités et justement, je pense qu'il en est question là-dedans.
Absolument, mais on commence avec une question facile pour ce petit quiz pour tester les connaissances de tout le monde. On a deux anguilles électriques à l'électrium. J'aimerais savoir quels sont leurs noms. Vous aurez un point seulement si vous avez deux bonnes réponses.
Oh non.
Oh my God.
Voyons.
Ouais. Pression avec le mot facile.
Roberto.
Roberto, ça aurait été bien, mais c'est pensée électricité. Hein.
Je me dis quelque chose genre Volta et Tesla.
Ah. Oui! Excellent. Une question peut-être plus pour nos guides, mais tout le monde devrait la savoir. Combien y a-t-il de fenêtres au siège social?
Oh my.
Moi, je dis au moins 2000.
C'est bon. Plus que 2000. Qui dit mieux que 2000?
2492.
Oh, plus que ça. Qui dit... 2700? Il y a beaucoup de fenêtres ici, c'est gros. Hein?
4200.
Oh, non, madame a été trop loin.
3000.
Excellent.
Wow.
3000, c'est ça?
3000 fenêtres quand même. Donc, ça doit être une job à temps plein d'entretenir.
J'ai arrêté de compter à 2000.
Oui, c'est assez.
C'est un édifice patrimonial en plus.
Quand l'avoir de vite nous visite, c'est un événement.
Vous devriez ajouter ça à votre visite. Regardez toutes les fenêtres du siège social. Question historique. Quelle est notre première centrale hydroélectrique dont les travaux ont été confiés à un ingénieur francophone?
Ça, je sais.
Ah oui?
Carillon.
Carillon!
Wow!
Ça va aussi. Félicitations. Donc, c'était dans la foulée de la Révolution tranquille, un courant de francisation qui avait gagné Hydro-Québec sur ses chantiers.
Francisation.
L'architecture de la rivière des de la centrale de Rivière-des-Prairies reflète les tendances... Félicitations. Donc, les tendances de l'époque avec un style déco particulier. La prochaine question va être plus dure, par exemple. Hein? 1700 panneaux photovoltaïques se trouvent sur le toit du centre sportif de Mégantic dans notre nouveau micro-réseau ilotable. Mm-hmm. Ces panneaux sont suffisants pour alimenter 40 maisons ou faire cuire combien d'œufs?
Oh my God.
1200.
Vraiment plus.
Non, c'est 50 000.
Vraiment plus.
Eh ben.
Ouais, vous faites cuire ça. Combien de temps vos œufs, vous autres? Plus.
500 000?
565
000 œufs. Wow. Qui déjeune avec maison pour faire tous ces œufs-là
Ça devient compliqué quand même, mais on pourrait sûrement nourrir toutes mes gantiques grâce à ça.
Digestion potentiellement difficile.
Maintenant, on va parler de la Romana. Donc, elle fut la 15e installation d'Hydro-Québec à ouvrir ses portes au public pendant l'été. L'année de son inauguration, les guides ont accueilli combien de personnes?
Moi, je dis 5 000 personnes.
Ouais. C'est la première année quand même.
2500?
Presque. 2919.
Ooh, wow. Okay, wow, quand même.
J'ai des questions pop culture.
OK.
Nommez une vedette qui a chanté dans un amphithéâtre gonflable pour l'inauguration de la centrale La Grande 2A.
Céline Dion.
Absolument! Le savez-vous?
J'y pensais.
Céline a déjà chanté pour nous. Une dernière grande question pour vous encore de pop culture. Nommez une vedette qui a déjà participé à une fouille archéologique à la baie James.
Félix Leclerc.
Non. C'est dans les années 70. Ça peut vous aider.
Yvon Deschamps.
Non. Francis a l'air d'avoir une illumination. Pour ceux qui nous écoutent en audio, je vous conseille la vidéo parce qu'on vit quelque chose en ce moment.
J'allais dire Roger Moore.
Bon, je pense que je vais vous donner la réponse pour que l'épisode ne dure pas 3 heures. C'est Paul Piché, qui était en fait archéologue.
Ah, oui, tout à fait. Oui, oui. Tout à fait.
Et d'archéologue à numérologue.
Oui. Incroyable. Ça met fin au quiz.
Incroyable. Oui, bien, en fait, merci pour ce quiz. Et nous, en fait, en réponse, on a un petit quiz pour vous. Ah, oui. On a préparé quelques petites questions. Tous un peu difficiles, je dirais.
OK. On
l'a fait
encore. Oui, on va vous tester.
On va vous tester, oui.
Donc, Kenza, veux-tu commencer?
Oui, donc je vais commencer avec la première question. Vous êtes ici au siège social. Donc, est-ce que vous remarquez qu'est-ce qui se passe dans le stationnement en ce moment? À chaque fois qu'on passe, il y a plein de travaux. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on a découvert dans le stationnement du siège social?
Oui, les vestiges d'une scierie et de résidence.
OK, c'était très rapide.
J'ai vu des poupées aussi dans ces fouilles archéologiques-là.
Il n'y a pas de la vaisselle aussi ou quelque chose?
Oui, c'est les vestiges d'une résidence.
Ouais. Une toilette aussi, à ce qu'on m'a dit.
Un mur.
On a trouvé un puits aussi. C'est un des puits les mieux rénovés qu'on a trouvé à date. C'est vraiment intéressant. C'est...
Oui. Question numéro 2. Qu'est-ce que portait M. Caillé pendant la crise du verglas?
Un col roulé blanc.
Exactement, qui fait en fait maintenant partie de la collection historique d'Hydro-Québec.
Est-ce que c'est vrai?
Oui.
On a un col roulé dans notre collection.
Est-ce que c'est le col roulé ou c'est un col roulé?
C'est le col roulé.
Le col roulé,
Je ne savais pas. OK, on a un leg de col roulé. C'est incroyable, ça.
Mais par rapport à ça, dans les dernières pannes majeures, là, nous, on voyait les commentaires des gens sur les médias sociaux. Et lorsque notre PDG allait prendre la parole pour parler des pannes, il y a des gens qui reprochaient le fait que le PDG ne porte pas de col roulé.
On réclamait le col roulé.
Ouais, les gens s'en souviennent.
C'est iconique.
C'est iconique. Troisième question. Est-ce que vous savez c'est quoi la centrale la plus visitée?
Ah, c'est une bonne question.
Beauharnois, peut-être?
Rivière-des-Prairies?
J'ai dit Rivière-des-Prairies.
Manic 5?
Non. C'est loin.
LG2?
Rapid Farmers.
Eh oui.
Je voulais juste dire que je connaissais une autre centrale.
Rapid Farmer en Outaouais. Ouais.
Donc, la centrale qui est la plus visitée, c'est la centrale Shawinigan 2.
Oh. Ah! Et, j'aurais pas pensé. Ouais. Tu viens de là, PR.
Un gars de
exactement.
Ma centrale.
Oui, donc depuis le 1er janvier, elle a accueilli 21 189 visiteurs.
C'est beaucoup. Donc, la Romaine 1 à son inauguration.
Mais avec la cité de l'énergie, ça l'aide à l'attrait, en fait.
Oui, c'est suivi justement de l'Électrium en deuxième position et de Beauharnois en troisième position. Donc, proche.
J'étais quand même sur le podium.
Mais précision importante, pour la Cité de l'énergie, on ne s'occupe pas des visites. C'est vrai, c'est un organisme indépendant.
Oui, exactement.
On a une dernière petite question pour vous. Pourquoi est-ce que c'est arrivé que des corneilles s'attaquent aux isolateurs qu'on retrouvait sur des installations qui appartenaient à Hydro-Québec?
Vous voulez avoir la paix?
Peut-être. Ouais.
On parle souvent de corneilles, mais j'avoue que pour celle-là, je suis bouche bée.
Ça, c'est, je ne sais pas si c'est de la culture populaire, que les corneilles sont attirées par les choses qui brillent.
Ben, en fait, c'est une question qu'on a reçue ici au siège social. Et c'est intéressant parce qu'on a contacté justement une personne ressource pour avoir la réponse. Et les corneilles ont un tempérament qui est curieux. Donc, ils vont aller justement gruger, ben, pas gruger, mais aller se poser sur les fils pour justement, parce qu'ils sont curieux, ils voient que ça brille. Donc, ils vont justement se poser dessus. On a aussi eu des cas de corbeaux qui venaient s'attaquer aux isolateurs parce qu'on avait un fournisseur qui les badigeonnait d'huile d'arachide. Donc, ça a fait tout un problème à un moment donné. Donc, c'est intéressant.
Je comprends, moi aussi, ça me rend très agressif.
Les arachides, ça rend agressif. Ouais. Pour Jonathan, ce serait l'huile d'amande.
Non, c'est ça, je peux pas.
Plus dangereux.
Puis c'est pour ça aussi qu'on met pas de bacon sur nos installations non plus pour éviter que les animaux
Les ours qui grimpent au poteau, là, on est tannés.
Donc, en quelque sorte, si on veut résumer cet épisode, on a 16 installations à visiter pour Hydro-Québec. C'est toujours gratuit, ces visites-là. Et les guides ont tellement de connaissances générales qu'ils pourraient prendre notre travail facilement. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci pour l'invitation.
Merci de votre écoute. Et puis, surveillez les autres sujets de cette série balado. Il y a tout plein de trucs fascinants.